L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info local de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Ludovic Orger, président de l'association Pèse-Plume 01. Créée en 2002, Pèse-Plume accompagne toute personne souffrant de surpoids, d'obésité et ou de troubles du comportement alimentaire, autrement appelés TCA, des troubles qui toucheraient 1 million de Français et qui restent mal diagnostiqués car multifactoriels.
Selon Santé publique France, un adolescent sur 4 serait touché par un trouble du comportement alimentaire au cours de la période adolescente.
Et l'activité de Pèse-Plume est d'utilité publique. Elle travaille d'ailleurs en partenariat avec de nombreuses autres structures professionnelles ou associatives dans toute la France. Ici, à Bourg-en-Bresse, elle propose notamment des activités ludiques ou sportives et assure une mission de sensibilisation, notamment au bien manger.
On retrouve l'interview de Ludovic Orger tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Piège et prévention contre les frelons asiatiques.
La ville de Bourg-en-Bresse agit pour lutter contre le frelon asiatique qui se développe de plus en plus. L'année dernière, 150 nids avaient été comptés en ville et 1609 nids avaient été détruits dans l'Ain.
Le département a distribué plus de 1900 pièges en mars dernier auprès de 281 communes indinoises.
Le printemps est la meilleure période pour détruire ces insectes qui s'attaquent aux abeilles, essentielles à la pollinisation des cultures. Le service hygiène et santé de la ville a choisi d'utiliser 80 pièges postés dans des endroits stratégiques comme les écoles, les crèches ou encore les parcs. Équipés d'un cône d'entrée, ces installations permettent de ne capturer que les frelons asiatiques.
Pour rappel, le frelon asiatique se différencie du frelon européen par sa couleur. À distance, il apparaît comme étant brun-noir, tandis que le frelon européen est beaucoup plus jaune.
Dans la plupart des cas, la piqûre du frelon asiatique n'est pas plus dangereuse que celle d'une guêpe ou d'une abeille, sauf pour les personnes souffrant d'allergies. Et si vous reconnaissez des nids de frelons asiatiques, vous pouvez les mentionner sur la plateforme www.frelonsasiatiques.fr qui a pour vocation à gérer les signalements jusqu'à la destruction des nids dans certains endroits ou contacter un professionnel.
Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B. Des polluants éternels dans l'Ain.
Deux sites seraient concernés, la station d'épuration du parc industriel de la Plaine de l'Ain et le centre de traitement des déchets Organum Aviria. C'est ce que pense en tout cas l'organisation non gouvernementale Génération Future, qui dans son rapport datant d'avril dernier, identifie les principales sources industrielles de pollution en France. Dans cette étude, il est souligné que 5% des établissements seraient responsables de plus de 99% des émissions détectées au national.
Mais c'est quoi le polluant éternel ?
Autrement appelé PFAS, ces molécules anti-adhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, ne se dégradent pas dans l'environnement et polluent eau potable, air, sol et sédiments. Elles peuvent provenir de produits industriels comme les emballages alimentaires, les textiles, Gore-Tex par exemple, les revêtements des poils ou encore des cosmétiques.
Et quelles sont les conséquences pour la santé ?
La pollution aux PFAS est un sujet de santé publique préoccupant, souligne un rapport parlementaire publié en janvier 2024. Les PFAS représentent des risques graves pour la santé et peuvent être cancérigènes. Les conséquences sur la santé varient toutefois selon le niveau d'exposition et l'âge, précise le rapport. Interrogé par Le Progrès, Yves Christin, président du syndicat intercommunal de traitement de valorisation des déchets ménagers de l'Ain, précise qu'Organum Aviria ne produit pas et n'utilise pas de polluants éternels, mais que le centre de déchets a accumulé depuis plus de 40 ans des matières sûrement rejetant des PFAS, ce qui a incité Organum à réaliser des analyses régulières depuis 6 ans.
De son côté, Émilie Brault, directrice du syndicat mixte de la station du parc industriel de la Plaine de l'Ain, souhaite enquêter pour comprendre d'où viennent les PFAS, car pour elle, la station d'épuration ne produit pas ces polluants, elle ne fait que collecter les eaux usées.
On rappelle que le gouvernement a mis en place un plan d'action PFAS 2023-2027 qui a pour objectif de réduire les risques, surveiller les milieux, améliorer les connaissances scientifiques et faciliter l'accès à l'information pour les citoyens.
Grand Bourg Agglomération révise son schéma de cohérence territoriale.
L'objectif, fixer des règles qui s'appliquent dans les plans locaux d'urbanisme. Autrement dit, il s'agit de réaliser un document qui planifie le développement du territoire dans les domaines de l'habitat, des transports, de l'aménagement et de l'environnement.
Une vision en lien avec les urgences climatiques, les enjeux de réduction des consommations d'énergie fossile et aussi en tenant compte des évolutions législatives.
Il sera question de diminution de l'artificialisation des sols et d'intégration d'enjeux des transitions écologiques et énergétiques dans l'aménagement.
Le schéma de cohérence territoriale définit une stratégie pour les 20 prochaines années.
Et conformément au code de l'urbanisme, des concertations associant les habitants sont mises en place. Alors si vous êtes intéressé, rendez-vous le
mardi 20 mai à 18h à Saint-Denis-les-Bourgs, salle La Ferme, au 111 rue des Écoles, à 20h30 à Druyat, à la salle des fêtes, route de Pondin.
Et le mardi 10 juin à 18h à Villemotier, à la salle communale, ou à 20h30 à Saint-Nizier-le-Bouchou, salle polyvalente, 136 rue de la Mairie.
L'un dans l'autre, l'interview. Direction Bourg-en-Bresse aujourd'hui, où nous avons rencontré Ludovic Orger, président d'une association qui place l'humain, l'écoute et la bienveillance au cœur de son action.
Depuis plus de 20 ans, Pesplume accompagne les personnes touchées par le surpoids, l'obésité ou des troubles du comportement alimentaire.
À sa tête, un président engagé qui nous parle de cette aventure collective, des réalités de terrain, mais aussi des liens étroits tissés avec les professionnels de santé du territoire. Ludovic Orger, bonjour, vous êtes le président de l'association Pesplume 01. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots cette association et ce qui vous anime au quotidien ?
Alors bonjour, moi c'est Ludovic Orger et je préside l'association Pesplume 01 depuis maintenant 23 ans, association qui vient en aide aux personnes ayant des problèmes de poids et du trouble du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, l'obésité et le surpoids, avec l'aide de personnes du corps médical et paramédical. Donc c'est une association de bénévoles et uniquement de bénévoles.
Qu'est-ce que vous proposez comme aide pour ces personnes qui sont en surpoids, en situation d'obésité ou qui ont des troubles du comportement alimentaire ? Concrètement, comment ça se passe ?
Alors pour notre part, nous on met en place des conférences santé, on met en place de l'activité physique adaptée, on met en place aussi des rencontres à la forêt, au lac de Bouvant, et on participe aussi à la mise en place d'actions spécifiques comme au mois de juin, où il y aura la journée des troubles du comportement alimentaire. Et nous faisons deux actions, dont une pour les professionnels de santé. On est là aussi pour aider les personnes qui ne sont pas forcément adhérentes à avoir des solutions, à se faire aider correctement et à pouvoir avoir des conseils adaptés à leur pathologie.
Qu'est-ce que vous entendez par pathologie ?
L'obésité, le surpoids, l'anorexie, la boulimie sont reconnues comme des pathologies, ce sont des maladies. Donc la pathologie, c'est le fait d'avoir des problèmes de poids, tout simplement.
Est-ce qu'il faut avoir été diagnostiqué par un médecin ? Comment ça se passe ? Quel est le parcours en général ?
Non, nous, les personnes que l'on reçoit, les personnes que l'on voit, c'est des personnes qui se sentent mal dans leur peau, au niveau du poids. On n'est pas là pour les juger, pour ce qui est de plus de poids ou moins de poids. On est là simplement pour leur apporter une aide, un coup de main, une entraide aussi durant quelques années, parce que certaines personnes, on les suit pendant quelques années, ils font pas forcément nos rendez-vous, mais ils ont quand même besoin d'un petit coup de main. Donc, on est là pour eux.
Donc vous parlez de rendez-vous, c'est des rendez-vous qui peuvent être individuels aussi ?
Non, nous on a surtout des rendez-vous en groupe, avec les réunions, avec l'activité physique. Quand on voit les personnes en particulier, en général c'est dans des lieux publics, pour éviter tout souci. Et en fait, on est là pour les personnes que l'on ne connaît pas encore, on est là pour les guider vers des professionnels de santé qui n'ont rien à vendre, ni poudre de perlimpinpin, ni faire l'apologie de la chirurgie de l'obésité. On est vraiment là pour aider et accompagner.
Donc qu'est-ce qui distingue vos actions justement d'un parcours de soins classique ou d'une approche purement médicale ? Je pense à Repop Lira par exemple, c'est un réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique.
Oui, le Repop, c'est un réseau qui est très très bien. On bosse aussi avec eux. On a déjà mis des actions en place avec eux et on va en mettre prochainement, normalement au mois d'octobre, avec eux dans le cadre des SISM, les semaines d'information sur la santé mentale. Et notre approche à nous, en fait, le Repop, c'est surtout pour les mineurs, pour les enfants. Nous, on bosse beaucoup avec les adultes à partir de 18 ans. On travaille aussi avec certaines écoles. On l'a fait il y a peu de temps avec le lycée Caria pour tous les élèves de première. Donc on fait de l'information et de la prévention dans les écoles. On travaille beaucoup plus avec les adultes.
Et quelle forme ça peut prendre alors, cette prévention?
Comme par exemple pour la semaine du goût, on met en place des ateliers dans certaines écoles, des ateliers nutrition avec des producteurs locaux. Là, quand on a travaillé avec le lycée Caria, c'était simplement une journée de prévention pour les premières, où on a informé avec des professionnels de santé, on a informé sur le sujet de l'obésité, de l'anorexie, l'importance du petit déjeuner, parce que pour les étudiants, ils ne prennent pas le temps de petit déjeuner, on va dire, mais surtout le temps de passer du temps sur les écrans. Donc on les incite à passer un petit peu moins de temps sur les écrans et un peu plus de temps au petit déjeuner. C'est important pour bien carburer pour la journée.
Donc ça reste vrai, c'est pas une légende urbaine, le fait que le petit déjeuner soit le repas le plus important de la journée?
Ah, tout à fait. Si vous ne mettez pas d'essence dans votre voiture ne va pas démarrer. Si vous ne prenez pas votre petit déjeuner, vous allez être en forme 1 heure, 2 heures, et après vous allez vous abaisser, vous allez avoir des maux de tête, vous allez avoir des maux de ventre, et vous n'allez pas être bien. Vous n'allez pas pouvoir être assidu à votre travail ou en cours. Donc l'importance du petit déjeuner est très très importante.
Et c'est quoi alors un petit déjeuner équilibré? Qu'est-ce qui est bon en fait?
Pour le petit déjeuner, purement et simplement déjà du lait, enfin des produits laitiers, des fruits, si on peut en compote ou des vrais fruits, ou quitte à se faire soi-même son petit jus d'orange, une tranche de pain, des biscottes, des tartines, un petit peu de beurre, de la confiture. On se fait plaisir au petit déjeuner, c'est important, comme je dis, c'est le carburant de la journée. Si on fait un petit déjeuner sans plaisir, on démarre mal la journée. Donc c'est important le plaisir.
Ok, donc ça c'est aussi une information à garder, c'est-à-dire que donc vous suivez, comme vous l'avez dit, des personnes qui vont avoir des problèmes, des troubles alimentaires ou des problèmes de poids, mais vous gardez cette notion de plaisir au centre de vos activités, c'est bien ça?
Ah mais quand on a des problèmes de poids, le plaisir ne doit pas être oublié, c'est super important. Si vous faites quelque chose sans plaisir, vous allez entamer un processus qui ne va pas être agréable et vous allez vite abandonner. Donc la partie plaisir doit rester là. La partie plaisir est super importante. Je le dis souvent, quand je mange le midi, je me prends mon petit café et avec mon petit café, j'ai mes 2 carreaux de chocolat. Mais du chocolat qui me fait plaisir, pas du chocolat qui va me rebuter du style 90% de cacao. Je n'en veux pas. Moi, je veux un chocolat qui me fait plaisir. Mais ça, c'est ma partie plaisir à moi.
Donc à chacun de trouver la sienne un petit peu, c'est ça?
Tout à fait. Quand on parle de plaisir, on évite les pâtes à tartiner. On mange confiture. Si on peut faire sa confiture soi-même, c'est encore très bien. Si on peut mettre sur sa tartine de la compote, c'est très très bien aussi. C'est super bon, petit déj. Ou alors avec un petit peu de fromage, ou alors avec un petit peu de jambon, c'est très très bien aussi. On dit souvent aussi qu'il est bon de prendre un petit œuf dur le matin.
Alors la bienveillance, l'écoute et la prévention, on l'entend dans votre discours, semblent importantes dans la communication de Pesplume. Concrètement, ça se traduit comment dans vos actions?
En fait, on met en place des actions à la demande de nos adhérents. Quand ils ont envie de faire quelque chose, quand ils ont envie d'entendre quelque chose, un sujet particulier, on fait en sorte de mettre cette action en place. L'objectif, c'est de ne pas juger les gens. L'objectif, c'est que les gens soient à l'aise quand ils viennent à nos rendez-vous et que la rigolade, le plaisir de se retrouver, on reste toujours sur la partie plaisir. Quand on est des gourmands, c'est important. Mais la gourmandise, c'est aussi se retrouver et être ensemble et se sentir bien ensemble.
Alors vous collaborez, vous nous l'avez dit, avec de nombreux professionnels, une trentaine d'établissements de santé. Comment se construit votre réseau et concrètement, à quoi sert-il?
Alors le réseau s'est construit au fur et à mesure. Il y a 23 ans, nous avions 8 personnes du corps médical et paramédical au sein de l'association. À l'heure actuelle, nous avons 162 personnes du corps médical et paramédical, diététiciennes, cardiologues, endocrinologues, gynécologues, sophrologues, kinés, psychiatres, psychologues, nutritionnistes, tout un tas de professionnels de santé qui sont là pour... qui gravitent autour de l'alimentation, autour des problèmes de poids et qui peuvent apporter leur savoir. Toutes les personnes, tous les professionnels ne fonctionnent pas de la même façon. Donc c'est aussi important de voir les façons de fonctionner de tout le monde. Et au fur et à mesure qui collaborent avec nous, on sait comment ils travaillent et ça nous permet aussi après de pouvoir les aiguiller vers certains patients. En sachant qu'on est, comme beaucoup d'associations, on aiguille pas nos adhérents vers un professionnel mais vers plusieurs. C'est plus déontologique et on travaille à l'heure actuelle avec 37 établissements hospitaliers et cliniques sur l'Ain, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Jura et la Haute-Savoie.
Oui, parce que Pesplume n'existe pas uniquement dans l'Ain, c'est bien ça ?
Alors, on a une petite sœur qui est sur Chalon-sur-Saône, mais on collabore aussi avec d'autres associations de santé ayant rapport avec les problèmes de poids sur toute la France.
Oui, j'ai vu ça d'ailleurs, on trouve cette liste d'autres associations qui sont partout en France sur votre site. Comment vous travaillez les unes avec les autres ?
Tout simplement en mettant des actions en place, en se faisant confiance. Là, on va bientôt se rencontrer, beaucoup d'associations vont se rencontrer pour le congrès de l'obésité qui aura lieu à Saint-Étienne au mois de mai. Et c'est une façon de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se donner des idées, de pouvoir échanger et de pouvoir travailler ensemble. L'objectif, quand on prépare des actions de communication, des actions au niveau des professionnels de santé et des établissements, c'est que l'on puisse communiquer entre associations et qu'eux puissent communiquer tout ce que l'on fait et nous, idem pour eux.
Le 24 mai, vous organisez un atelier de cuisine thérapie. Qu'est-ce que c'est exactement et à qui c'est ouvert ?
Alors, c'est ouvert à tout public. Le 24 mai, il faut déjà savoir que l'atelier est complet. C'est ouvert à tout public. C'est un atelier que va faire Florence et qui en fait va apporter des aliments. Et on va travailler les aliments à notre façon. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de travailler ces aliments. Après, on ramène tout chez nous, bien sûr. Et l'objectif, c'est la créativité. L'objectif, c'est le bien-être. L'objectif, c'est aussi les conseils qu'elle peut donner par rapport à tout ça. Et s'apercevoir que l'on peut faire autre chose avec des carottes plutôt que des carottes râpées ou que des carottes cuites à l'eau. Enfin, voilà. Que chaque aliment est peut-être totalement différent de ce que l'on peut penser. C'est une superbe idée mise en place.
Alors, qu'attendez-vous de ces temps que vous mettez en place avec votre association ? Qu'est-ce qu'ils apportent à vos adhérents ?
Ils apportent en fait des conseils, ils peuvent apporter du réconfort, ils peuvent apporter des solutions. Certaines personnes peuvent ne pas penser qu'ils sont capables de faire certaines choses, alors qu'en fait, rien que par exemple aller se balader en forêt ou au bord du lac de Bouvant, certaines personnes peuvent ne pas penser qu'elles peuvent arriver à faire cette distance-là, alors qu'en fait, on l'a fait ensemble, on discute ensemble, et en fait, le temps passe. On va dire passe normalement, mais la personne ne sent plus les kilomètres passer et se sent bien dans son corps. Ou se sent mieux dans son corps plutôt. Donc l'objectif, c'est vraiment de passer du temps ensemble.
Donc on l'entend, vous proposez des activités vraiment diverses. Comment on fait pour se tenir informé ?
Alors nos activités passent dans la presse, mais nos activités sont aussi diffusées par mail. C'est tout marqué aussi sur notre site internet. Et les gens peuvent faire une demande de contact via notre site internet. Et on peut leur envoyer tout à fait le programme des activités pour cette année. Je parle en année scolaire pour cette année ou voire pour les rencontres de début septembre déjà.
Donc pour celles et ceux qui hésiteraient à venir vers vous, quel message aimeriez-vous leur faire passer ?
On est là simplement pour vous apporter du bien-être, de l'information, du soutien. On n'est pas là pour vous mettre la fourchette dans la bouche. C'est pas nous qu'allons vous juger, mais on est là simplement pour être à vos côtés. Donc n'hésitez pas, venez nous voir. Et ça ne vous engage absolument en rien.
Donc merci Ludovic Orger.
Merci à vous, très bonne journée.
Si vous souhaitez rencontrer l'équipe de Pesplume ou en savoir plus sur leurs actions, rendez-vous mardi 20 mai à 18h30.
Une conférence autour des troubles digestifs et de leur prise en charge en éthiopathie, animée par Alice Lafort. L'éthiopathie est définie par l'INSERM comme une pratique exclusivement manuelle, s'inspirant historiquement du rebootement.
Retrouvez également toutes les informations sur l'association sur le www.pes-plume01.fr au singulier et sans accent. Vous écoutez l'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B. L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine. Merci Jimmy à la technique. Et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du magazine d'info locale qui vous engage.
En attendant, on reste à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
Sur 90 FM. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.